Bonjour à tous. J'ai 7 questions à vous poser. Ce qui serait bien, il n'y a pas de tablette de chocolat aujourd'hui, non. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez prendre un petit papier et un crayon, puis noter vos réponses. Parce que, en fait, on ne va pas finir aujourd'hui, hein, on va juste commencer. Et ça serait intéressant. Vous savez, quand vous faites une prédication, ce qui est intéressant, c'est quand le prédicateur apprend des choses lui-même. Et je dois dire que, en préparant ce thème d'aujourd'hui, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses que j'avais jamais comprises jusque-là. Alors, j'espère vous entraîner avec moi dans cette compréhension. Alors, première question. Oui, vas-y. Alors, vous l'avez compris déjà, on va parler du thème du jugement. Et la première question, d'après vous, est-ce que la Bible annonce un jugement? Un jugement final, dirons-nous. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ben ça tombe bien parce que sinon les autres questions tombaient à plat, hein. Alors, celle-là était relativement simple. Deuxième question, un peu plus compliquée. Qui doit juger? Dieu ou Jésus? Il n'y a pas de troisième case, mais sur votre papier, vous pouvez mettre, je sais pas, Satan, Nicolas Sarkozy. Dieu, Jésus, bon, ensemble. Troisième question, les croyants seront-ils jugés? Alors, j'entendais oui, j'entendais non et j'entendais ça dépend. Bernard? Alors, dans les « ça dépend », il faudrait savoir de « ça dépend de quoi ?» que ça dépend du vent. Voilà, celui qui croit ne vient pas en jugement, dit Jésus. Alors là, il y a un petit problème. On continue? Les hommes sont-ils ou seront-ils jugés selon leurs œuvres ou selon leur foi en Jésus-Christ? Ah oui, alors s'il n'y a pas de jugement, évidemment. Alors, on continue. Y a-t-il des degrés dans la culpabilité et des peines graduées? Y a-t-il des degrés dans le salut et des sentences différentes? Ben, c'est la même en miroir, si on peut dire. Vous voyez que ça se complique un peu quand même au fur et à mesure qu'on avance. On avance encore ? Quand le jugement a-t-il lieu? À la mort de la personne? Avant la mort de la personne? À la résurrection? À la fin des temps, il y a peu, c'est, j'aurais dû mettre 3 points de suspension parce qu'il peut y avoir d'autres réponses. Ah ah, ça se corse. Et puis la dernière question, puisque je vous en ai annoncé 7, je n'ai pas fait exprès. Ça va rejoindre un peu ce que nous a montré Pierre-Yves tout à l'heure, vous allez voir, c'est rigolo. Est-il possible d'être sauvé si on n'a pas connu Jésus-Christ? Alors j'ai pris des Bushmen, j'ai pris des Esquimaux, j'ai pris la Chine au temps ancien. Voilà. Est-il possible d'être sauvé si on n'a pas connu Jésus-Christ? Donc je vous propose de reprendre depuis le début. La Bible annonce-t-elle un jugement? Dans l'Ecclésiaste, on lit ceci, Ecclésiaste 11, verset 9. « Jeune homme, mais je pense que c'est valable pour ceux qui sont un peu montés en graines. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Dieu te fera venir en jugement. Et un peu plus loin, dans le même livre, au chapitre 12, « Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » On voit déjà là, dans ce passage, dans ces deux passages, qu'il y a une dualité déjà. Dieu te jugera, toi, ta personne, ce que tu es, et Dieu fera passer toute œuvre, ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait en jugement. Le jugement donc tient une place très importante dans l'Écriture. Dieu va juger, c'est dit très souvent, psaume 9, « L'Éternel siège pour toujours, il a établi son trône pour le jugement. » Malachie 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant, et tous ceux qui ne me craignent pas, dit l'Éternel. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Quel est l'intérêt d'un jugement? Le jugement, c'est la manifestation de la vérité. Dieu amène tout en jugement, notamment ce qui est caché. Vous savez, vous rappelez cette parole dans le livre de Samuel, « Dieu, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et le jugement, c'est le voile qui se lève sur la vraie réalité de ce qu'a été la vie de chacun. Maintenant, Dieu patiente, mais un jour, tout sera révélé. Jésus a dit à ses disciples, Luc 12, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Le jugement fera apparaître tout ce que nous avons fait, avec les motivations pour lesquelles nous avons fait. Il fera apparaître ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Et le jugement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sujet d'espérance. Il signifie que la création n'est pas indifférente à tout ce qui se commet. Il existe un Dieu qui réagit, un Dieu qui sanctionne les crimes, qui sanctionne aussi les actes de générosité. À cause de la patience de Dieu, on peut oublier qu'il existe une justice. Si Dieu existait, etc. Si ceci n'arrive pas, c'est la patience de Dieu qui nous aveugles. Mais un jour, le jugement satisfera l'espérance de ceux qui ont faim et soif de justice. Vous vous souvenez de cette béatitude ? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et comment est-ce que Dieu pourra rassasier ceux qui ont faim et soif de justice ? C'est lorsqu'il donnera son jugement. Et pour les victimes, celles qui n'ont pas pu obtenir satisfaction sur la terre, vous vous rendez compte combien il peut être destructeur, navrant, poignant de se dire que les bourreaux ne seront jamais punis. Mais ce n'est pas vrai, les bourreaux seront punis. Dieu manifestera sa justice. Et il le faut, parce que dans l'éternité, Pierre nous dit, la deuxième épître de Pierre, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Elle habitera parce qu'elle aura été satisfaite. Alors, qui doit nous juger ? Dieu ou Jésus ? Qu'aviez-vous répondu à cette question ? Jésus. Dieu. Ben, vous avez tous raison. Acte 10, verset 42 nous dit « Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. » Il a été désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Et puis vous connaissez le discours de Paul en acte 17. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde, selon la justice, par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Cet homme désigné par Dieu par la résurrection, il n'y en a pas 50. Bien sûr, c'est Jésus-Christ. Romains 2, verset 16, « Tout cela apparaîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, dit Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. » Et Jésus lui-même l'avait dit. Jean 5, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Il n'y a donc pas de contradiction entre les versets qui nous disent que Dieu juge, puisque c'est par Jésus que le Père va juger les actions des hommes. Est-ce que vous pourriez imaginer ce qui se serait passé si Dieu le Père avait jugé lui-même les actions des hommes ? Imaginez, une grande foule, Dieu sur son trône qui juge. Objection, votre honneur, vous n'y connaissez rien. Vous n'êtes jamais venu marcher sur terre. Vous n'avez pas connu le froid, la faim, la méchanceté des autres, la maladie. Comment pouvez-vous nous juger ? Dieu a répondu par avance à cette objection. C'est par un homme que nous serons jugés. Par un de nos pères. On aime bien être jugé par ses pères, par des gens qui connaissent un peu la situation dans laquelle on est. Eh bien, Dieu a prévu cela. L'Épître aux Hébreux souligne que Jésus, qui a vécu une vie d'homme, peut compatir à nos faiblesses. Et cela doit nous rassurer. Et puis, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui a aimé les hommes, qui a aimé les femmes, qui a aimé toute l'humanité. C'est un homme qui, nous dit Jean 13, qui, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et puis, c'est drôlement pratique, parce que Jésus, avant d'être juge, il a un autre métier. Je l'ai entendu. Il est avocat. Si quelqu'un a péché, dit l'épître de la première épître de Jean, chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est quand même drôlement bien qu'avant d'être juge, Jésus soit avocat. Il s'est entraîné pendant tous ces siècles à prendre la défense des hommes et des femmes que nous sommes. Tout cela doit nous enlever la peur du jugement que nous pourrions avoir. Il est confié à quelqu'un de compétent et de compréhensif, mais de juste. Ce qui nous amène à la question d'après. Les croyants seront-ils jugés ou seulement les incroyants? Alors, si vous voyez les deux points que j'ai mis après, vous verrez qu'il y a comme un petit paradoxe. Les croyants ne seront pas jugés, et les croyants seront jugés. Certains versets de la parole pourraient nous faire conclure que les croyants ne seront pas jugés. Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en moi n'est pas jugé. » Jean 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Et puis Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Ben c'est parfait alors. Les croyants ne sont pas jugés. Oui, mais d'autres versets semblent montrer le contraire. Et ils semblent soutenir que tous les hommes, incroyants et croyants, seront jugés. Romains 14, 10. Pourquoi méprises-tu ton frère? Ton frère en la foi. Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Galates 6, verset 4. Que chacun examine son propre comportement. C'est écrit à des chrétiens. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Et 2 Corinthiens 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Alors l'ensemble de ces passages montre bien que tous les hommes seront jugés, les croyants comme les incroyants, mais effectivement, il semble y avoir une certaine contradiction. Comment allons-nous résoudre ce problème? Eh bien, en continuant l'étude. Ça va jusque-là? Oui? Bon. Voilà le plat de résistance. En tant que chrétien évangélique, on a appris depuis longtemps que les hommes sont jugés en fonction de leur foi en Jésus-Christ et que le jugement, ce n'est pas sur les œuvres. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Jésus quand même. Hein? Jean 5, verset 28, il dit à ses disciples, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Il y a bien question d'œuvre, de faire, de pratiquer. On revient chez Paul, Romains 2. Comptes-tu que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère, la fureur, à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement et ensuite pour le grec. Ces deux textes nous montrent que le jugement se fait bien selon les œuvres de chacun. La différence se fait entre ceux qui pratiquent le mal et ceux qui pratiquent le bien. Et voilà quelque chose qui nous étonne. Nous qui croyons que le salut s'obtient par la grâce, et puis nous le croyons parce que des textes nous le disent. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, dit Romains 2, 22. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse espérance de Dieu. Et dans l'Épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Là encore, on bute sur une apparente contradiction entre des textes qui nous disent que c'est sur les œuvres, sur ce que nous aurons fait, que nous serons jugés, et puis d'autres textes qui nous disent que de toute façon, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que les œuvres ne servent pas à grand-chose, que nous sommes sauvés uniquement par grâce. Alors, qui il faut croire ? Si on avait la chance, en plus, que ce ne soient pas les mêmes auteurs, on pourrait dire, ben, Paul, il dit ça, et Jean, il dit autre chose. Mais en fait, je vous ai cité deux textes du même chapitre, de l'Épître aux Romains, chapitre 2. Et puis, ça se complique encore, parce qu'il n'y a pas que les paroles. Il n'y a pas que les actes, pardon, il y a les paroles. Matthieu écrit cette parole de Jésus, Matthieu 12, verset 36. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Attention à nos actes, mais attention à nos paroles. Alors j'aimerais lire avec vous un dernier texte, puis on s'arrêtera pour aujourd'hui. Apocalypse 20, verset 11. Et je crois que c'est un texte important parce qu'il nous donne la clé. Je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. C'est des morts ressuscités, donc, puisqu'ils se tiennent debout. Des livres furent ouverts. Écoutez bien. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés selon, ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Sur le petit dessin, là, enfin sur la photo, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait deux livres. Et puis un marteau qui peut symboliser le jugement, ou je ne sais pas, enfin c'est plutôt un commissaire-priseur, mais ça ne fait rien. Ce que nous dit ce livre de l'Apocalypse, ce passage de l'Apocalypse, c'est qu'il y a deux livres. Enfin, des livres et un livre. Des livres sur lesquels sont consignées toutes nos œuvres, tout ce que nous avons fait. Et nos œuvres sont jugées. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Mais finalement, quel est le critère qui est retenu à la fin? C'est ce qui est écrit dans le livre de vie, qui est un livre à part. On va dire que c'est celui-là. Mais je crois qu'il ne faut pas nous faire une imagination trop terrestre de ces notions. Jean a décrit avec les mots de son temps et de son époque des visions qui le dépassaient beaucoup. Et je crois qu'il ne faut pas imaginer des gros grimoires. Ça sera peut-être des fichiers informatiques. Hein? Si Jean avait vécu à notre époque, il aurait dit, on ouvrit les fichiers sous Excel et on avait découvert les œuvres de chacun qu'on pouvait classer selon qu'on cliquait sur la première case ou la deuxième case, etc. Non, Jean était un homme de son époque et il décrit les choses avec les mots qu'il a. N'empêche que, il nous dit bien qu'il y a deux critères de jugement. Il y a les livres qui racontent nos œuvres, et il y a le livre de vie où des noms sont inscrits. Et ceux qui sont inscrits dans ce livre de vie, ce sont ceux qui ont adhéré au plan de salut de Dieu par le moyen de la croix de Jésus. Jésus a dit ceci à ses disciples, Luc 10, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Le chrétien comme le non-chrétien, tous passent en jugement. Tous sont jugés selon leurs œuvres. Les non-chrétiens n'ont que cela à présenter à Dieu. Les chrétiens sont à l'abri de la condamnation, car ils sont inscrits dans le livre de vie. C'est en ce sens-là qu'on peut comprendre les passages qui disaient, vous savez, tout à l'heure on disait, certains nous disent les chrétiens sont jugés, d'autres nous disent ils ne sont pas jugés. Les œuvres de chacun sont jugées, de tous, mais seuls sont condamnés ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Le mot « juger » en grec, comme en français, peut avoir des sens un peu élastiques. Il peut vouloir dire « discerner », se faire une opinion, donc un sens assez mou, ou il peut vouloir dire « condamner ». Et c'est la même chose en français et en grec. On peut regarder, par exemple, en dehors du jugement dernier, on peut regarder des passages qui nous parlent du jugement de ce que nous faisons, nous, tous les jours. Jésus dit « ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé ». Et Paul dit aux Corinthiens « l'homme spirituel juge de tout ». Alors, si on prend le mot juger avec exactement le même sens, c'est une contradiction. Mais quand Jésus dit ne jugez pas, c'est ne condamnez pas. Hein? Et quand Paul dit l'homme spirituel juge de tout, c'est une question de discernement. Hein? Il sait choisir, il sait dire ce qui est bon. Donc, et on va terminer là-dessus pour aujourd'hui, les chrétiens, dont j'espère de tout cœur vous êtes, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, eux ne sont pas condamnés. Pourtant, leur œuvre sera jugée. Et on verra ça la prochaine fois.